Point de vue accueille Georges-Henri Soutou, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. L'actualité du 3 octobre 2010 renvoyait étonnamment à la guerre de 14. Le chapitre des dettes de guerre entre la France et l'Allemagne s'est en effet refermé le 3 octobre 2010. Georges-Henri Soutou, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Paris 4 Sorbonne, spécialiste des relations internationales au XXe siècle, nous donne son point de vue sur la fameuse question des réparations dont le règlement a pris 91 années, un temps long, inattendu, reflet des mouvements de l'histoire européenne. Georges-Henri Soutou, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors nous avons tous appris à l'école qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne vaincue devait payer des réparations aux puissances victorieuses. Pouvez-vous, Georges-Henri Soutou, nous rappeler en quoi consistaient ces fameux dédommagements ?
Alors, c'est une question qu'on est obligé de résumer. Il y avait d'une part la réparation de dommages physiques, c'est-à-dire les destructions faites en Belgique et dans le nord de la France à cause des combats et des circonstances de la guerre. Et également le tonnage de bateaux essentiellement anglais coulés par les sous-marins allemands. Il y avait en plus quelque chose qui a beaucoup compliqué la question et qui n'était pas prévu au départ, qui étaient les versements de pensions aux soldats mutilés ou aux veuves et aux orphelins des soldats tués. Ce qui, pour le dire d'un mot, doublait l'addition prévue au départ.
Est-ce que c'était évident de se mettre d'accord sur un montant, justement,
pour
ces questions financières, Alain ?
Ça n'a pas du tout été évident. Ça a été d'abord discuté lors de la conférence de la paix en 1919, qui n'a pas pu arriver à définir un chiffre, puisque même les alliés n'étaient pas d'accord entre eux. Ce qui fait qu'on a confié la question à la commission des réparations, commission interalliée qui va gérer justement la définition des réparations et leur versement. Et il lui a fallu 2 ans pour définir un chiffre qui lui-même était un chiffre théorique. Je vais préciser peut-être en quelques mots les gammes de chiffres qu'on avait en tête à l'époque. En 1919, les Américains estimaient que l'on ne devait pas demander plus de 100 milliards de marques or, marques d'avant 14, à l'Allemagne. Pour fixer les idées, ça représentait 10 ans d'exportation allemande avant la guerre de 14. Fixer les idées, parce que sans ça, ces chiffres ne signifient évidemment rien. Les Allemands auraient été prêts, sous réserve d'un aménagement des conditions de paiement, à accepter des chiffres de ce montant à peu près. Les Anglais, eux, demandaient 450 milliards de marques or, ce qui était totalement irréaliste, tout simplement parce qu'ils ont exigé l'inclusion des pensions, comme je vous le disais. Sans ça, leur pourcentage dans le total aurait été très faible, puisqu'on ne s'était pas battu en Angleterre. Et les Français ont présenté, en 1919, des chiffres intermédiaires. Le chiffre auquel on est arrivé, qui était évidemment très théorique, auquel on était arrivé en 1921, était le résultat de négociations complexes et essayait quand même de tenir compte de ce qu'on appelait les capacités de paiement de l'Allemagne. Parce que malgré leur folie, les clauses de réparation du traité de Versailles indiquaient que l'on tiendrait compte des capacités de l'Allemagne. On est arrivé au chiffre de 132 milliards de marques or. Il a fallu ensuite amener les Allemands à accepter non seulement le principe de la somme, mais ensuite des modalités de paiement, ce qui a provoqué une première crise et en 1924 un premier plan de réparation. Cette chronologie pour comprendre pourquoi ça s'est achevé qu'en octobre dernier. Premier plan de réparation intitulé Plan d'Oss, du nom du comité d'Oss qu'il a mis au point, qui était valable pour 5 ans, le temps de voir comment l'économie mondiale évoluerait et surtout le temps de laisser les opinions publiques se calmer. Parce qu'il est évident qu'en 1919, dans les pays comme la France ou l'Angleterre ou la Belgique, personne n'était prêt à renoncer à quoi que ce soit. Tandis qu'en Allemagne, personne n'acceptait d'envisager de payer quoi que ce soit, puisque la légitimité même des réparations était contestée. Et en tout cas, les critères retenus finalement au traité de Versailles étaient plus larges que les critères, et 2 fois plus coûteux pour les Allemands, que les critères annoncés par le président américain au moment de l'armistice en novembre 1918. Donc les Allemands estimaient, ils n'avaient pas totalement tort, que les Alliés n'avaient pas été loyaux à leur égard. Il n'avait pas totalement tort. Alors, ce plan d'Oss provisoire pour 5 ans était suivi d'un plan Jung qui était définitif, qui prévoyait des versements représentant en gros. Chaque année, 20% des exportations allemandes avant 1914, toujours pour fixer les idées, et qui devait normalement se poursuivre jusqu'en 1988. Je dis bien 1988, un an avant la réunification de l'Allemagne. C'était évidemment fantasmagorique, mais c'était signé par les Allemands qui ne pouvaient pas se soustraire à la pression alliée, d'autant plus que la condition que mettaient les Alliés à accorder des crédits par leur banque à l'Allemagne pour redresser son économie était qu'elle signe les accords de réparation. Puis est arrivée la crise des années 30 et dès 1932, à la conférence de Lausanne...
Là, il y a eu des aménagements de prévus.
Voilà, 1932, à la conférence de Lausanne, on constate que l'Allemagne n'est plus en état de payer avec un tiers de sa main-d'œuvre au chômage, c'est évidemment pas possible. Et on décide de limiter maintenant les derniers paiements à une somme de 3 milliards de dollars, ce qui n'était pas grand-chose par rapport à la somme initiale. Nous sommes en 1932.
C'était par rapport aux 10 années d'exportation, là, ça représente
ça représentait
combien, 3
par
milliards
rapport, alors ça, 3 milliards de dollars, ça représentait, disons, un tiers, un peu moins d'un tiers des exportations allemandes en 1914. Et c'était là pour solde de tout compte. Puis, l'année suivante, en 1933, l'une des premières décisions du chancelier Hitler a été de suspendre tous les paiements. Il restait encore 2 milliards de dollars. Quand les Alliés ont créé la République fédérale en 1949, il y a eu toute une série...
Alors, juste pour interrompre un peu la chronologie, vous aviez montré en 89 dans l'or et le sang combien justement les élites économiques allemandes étaient aussi sensibles aux réparations. D'abord, combien elles avaient pris conscience de l'intérêt pour elles d'un ordre économique placé sous le signe du libéralisme et que le choc de la défaite, les réparations, tout ça les avait amenées aussi à se positionner davantage sur ce créneau-là. Peut-être à les accepter. Ces réparations ont été perçues par
d'un
point de vue économique.
Nous allons, décortiquer l'artichaut, si vous voulez. Je vous ai présenté l'écorce extérieure, qui est essentiellement juridique et comptable. Mais derrière, il y a deux arrière-pensées fondamentales. L'une est propre aux Alliés, l'autre est partagée, ou du moins en rivalité dans les deux camps, si j'ose dire. Alors, propre aux Alliés, l'arrière-pensée fondamentale, c'est le pourcentage que chacun des différents alliés retirera du paiement des réparations allemandes. C'est très technique, mais à chaque négociation, ils se disputent avec les Allemands pour le total et ils se disputent entre eux pour la répartition. C'est un aspect essentiel, même s'il est très caché et ça a tout compliqué. Deuxième point, ce sont les arrière-pensées économiques. Car là, on a tort de penser qu'il s'agit d'une question purement comptable et financière. C'est faux. Les Français en particulier souhaitaient utiliser les réparations pour combler les déficits de l'économie et l'industrie française face à l'Allemagne. Pour recevoir du charbon, dont la France manquait, c'était à l'époque la source d'énergie principale, pour recevoir des produits chimiques, pour recevoir des machines, des installations industrielles, etc. Quant aux Allemands, si on leur permettait de payer les réparations sous forme de produits, matières premières ou produits finis, machines, etc., ils pouvaient y trouver dans une certaine mesure un intérêt, parce que du coup, ils devaient certes fournir tout cela, mais ils mettaient la main sur tout le marché des Alliés. Et pour le dire en un mot, c'est grâce aux réparations que l'industrie française de la machine-outil a très largement reculé, la France s'étant rééquipée avec des matériels allemands après la Première Guerre mondiale. Ce qui fait que l'une des bases de la puissance économique de l'Allemagne en Europe à long terme, ça a été les réparations payées juste après la Première Guerre mondiale, pour dire les choses très rapidement. On était parfaitement conscient de tous ces aspects à l'époque. Et il y avait alors là une troisième arrière-pensée, ou peut-être quatrième, enfin, qui était partagée par tout le monde. C'était les dettes que la France et l'Angleterre avaient envers les États-Unis, qui les avaient aidés pendant la guerre, et qui représentait à peu près le tiers de ce que l'on demandait comme réparation à l'Allemagne. Donc les Français et les Anglais disaient toujours « Nous pouvons accepter de réduire les réparations que nous doit l'Allemagne à condition que les États-Unis réduisent les dettes que nous leur devons. » Ce que les gouvernements américains ont toujours refusé.
Un jeu de domino dont il faut avoir conscience.
Et si vous prenez par exemple les accords Young de 1929, ils prévoient des paiements selon des bons, comme on disait, c'est purement théorique, des bons A, B et C. Les paiements A et B étaient à payer en premier par l'Allemagne, ils représentaient 50 milliards de marques or. Les bons C, les bons suivants, étaient hypothétiques. il serait ou ne serait pas payé. Il est très clair qu'il ne serait pas payé si les Allemands remettaient la dette française et britannique. Les Européens renvoyaient en quelque sorte en Amérique la responsabilité ultime de la question des réparations. Alors, ça a eu une importance à long terme, parce qu'après 1945, les Américains ont décidé qu'il n'y aurait pas de réparations allemandes, pour éviter de se retrouver dans la même situation.
Alors justement, on a vu rapidement tout à l'heure que Hitler, en 1933, avait décidé de cesser le paiement de ces réparations, et le dossier est rouvert, comme vous venez de le dire, à nouveau après la Deuxième Guerre mondiale, dans ce contexte de la guerre froide, un contexte également que vous connaissez très très bien. Alors à ce moment-là, la question des réparations de la guerre de 14 devient-elle secondaire ?
Oui, c'est une question technique, parce que c'est très compliqué. Il y avait eu des mouvements de fonds, il y avait eu des mouvements de crédit, il y avait du papier en main privée, il y avait des emprunts Jung qui avaient été lancés en 1930 pour faciliter la mise en place du système. Et les alliés ont donc demandé à la République fédérale d'achever le paiement des 2 milliards interrompus par Hitler. Et puis Hitler n'était pas évidemment légitime, donc il ne pouvait pas accepter cette décision unilatérale. Alors, il y avait les intérêts, parce que toutes ces dettes comportaient des intérêts. Et là, on a dit, c'est pour ça qu'on arrive à octobre dernier, l'Allemagne fédérale, ce n'est qu'une partie de l'Allemagne. Donc, on a écrit en 1949 que les intérêts de ces 2 milliards qu'elle allait verser ne seraient payés que si elle était réunifiée à partir du moment de la réunification. C'est-à-dire que ces intérêts ont été payés à partir de 1990 et le paiement vient de s'achever. Voilà. Donc c'est un peu une curiosité de l'histoire plus que quelque chose de fondamental, franchement.
Donc en fait, c'est dans les années 40-49 qu'on a décidé que le paiement des intérêts se situerait une fois que l'Allemagne serait réunifiée.
Tout à fait, l'accord de 49.
C'est parce qu'on pensait que l'Allemagne ne serait jamais réunifiée ou...
Non, je ne pense pas, parce qu'en 49, curieusement, on pensait qu'elle serait réunifiée beaucoup plus vite qu'elle n'a été réunifiée de fait. Ce n'est que plus tard, dans les années 60, fin des années 50, les années 60, à cause de l'évolution de la politique soviétique, qu'on a pensé qu'elle resterait divisée très longtemps, sinon toujours. Parce que jusqu'en 1955, la position officielle de tous les occupants, si vous voulez, enfin les vainqueurs, y compris les soviétiques, c'est la réunification de l'Allemagne. C'est seulement en 55 que les soviétiques ont abandonné l'idée de réunifier les deux Allemagnes. Donc tout ce qui a été fait avant 1955 avec l'Allemagne de l'Ouest, de la part des Américains, des Français, des Anglais, avec plus ou moins d'enthousiasme, c'est clair. Mais enfin, retenait toujours quand même l'hypothèse de départ de la réunification de l'Allemagne tôt ou tard. Et puis il y avait l'aspect politique. On ne pouvait pas dire à la République fédérale « vous ne serez jamais réunifiés ». Ce n'était pas leurs alliés occidentaux qui pouvaient leur dire.
Alors, quel sens a justement le paiement définitif des intérêts de la dette, là, hein, c'est ce qui restait, près de 90 ans plus tard, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente?
Eh bien, je pense que ça représente, là, du côté presque comique de la chose, que j'ignorais, je dois vous dire que j'ai lu les articles avec amusement, parce que j'ignorais ce dernier détail, mais qui est technique. Vous savez, je ne crois pas qu'il faille y accorder une importance essentielle. Ce qui est fondamental, c'est que l'Allemagne était censée payer à raison de quand même 2 à 3 milliards de marques or par an jusqu'en 1988, d'après les accords Jung. Et il y a eu un plébiscite en Allemagne pour ou contre le plan Jung en 1929. Parce que dans la constitution de Weimar, on pouvait avoir des plébiscites d'initiative populaire. Et ce plébiscite, je ne peux pas m'étendre ici, a été le point de départ à cause de l'opposition de l'opinion allemande aux réparations, surtout au plan Jung qui est assez dur, a été le point de départ de l'alliance qui s'est formée entre les nationaux-socialistes et les partis conservateurs nationalistes, alliance sans laquelle Hitler n'aurait pas pu arriver au pouvoir, ou en tout cas n'aurait pas pu exercer le pouvoir en mettant à son service toutes les élites allemandes, militaires, administratives, économiques. Ce qui a donné à son régime l'efficacité, hélas, que l'on connaît. Donc cette question des réparations, on en comprend l'origine et les raisons, bien entendu, mais c'est unique dans l'histoire européenne. Jamais on n'avait exigé des réparations aussi élevées avant, n'est-ce pas ? Même s'il y en avait eu souvent, à ce niveau-là, c'est tout à fait unique. Et ça a été certainement une lourde erreur. Mais une fois de plus, l'état de l'opinion en 1919 empêchait probablement à ce moment-là d'autres solutions.
Et pourquoi ne pas avoir annulé tout simplement le restant de cette dette au sein de l'Union européenne après la réunification de l'Allemagne ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2010 ? Qu'est-ce que ça révèle de l'état d'esprit européen ?
Alors là, je pense qu'il faut remonter à la façon dont s'est conclue la réunification allemande. Les Allemands n'ont eu qu'un réel soutien, c'était les États-Unis. aussi bien, il faut le dire, même si on ne le dit pas trop, mais aussi bien les Britanniques qui ont été très, 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 même Thatcher en particulier, enfin très, très réservés, pour ne pas dire hostiles, que les Français ou les Italiens ont été peu enthousiastes. Et on a voulu. Mais alors là, en même temps, il faut comprendre qu'il y avait un cadre juridique que je ne peux pas exposer complètement, mais qui tournait autour justement des accords de 1945 entre Américains, Anglais, Français et Soviétiques, qui prévoyaient les modalités de reconstitution d'un État allemand. Si on s'écartait trop de ce cadre juridique, on était obligé alors de faire du neuf, c'est-à-dire au moins de faire une conférence de la paix avec tous les États qui avaient été officiellement en état de guerre avec le Reich, c'est-à-dire toute l'Amérique du Sud, la moitié de l'Asie, ainsi de suite. Et là, on entrait dans quelque chose d'imprévisible que personne, ni même les Allemands, ne voulait. Donc, le plus simple était quand même de rester dans le cadre juridique existant, coller le plus possible. Les Allemands ont eu 15 jours, je me permets d'insister là-dessus, les Allemands ont eu 15 jours pour préparer les centaines de textes d'application de la réunification entre les deux Allemagnes à leur niveau. Et au niveau international, on n'a pas eu 6 mois pour mettre au point tous les très nombreux textes qui accompagnait le traité 2+4, comme on dit, entre les deux Allemagnes et les quatre grands pour la réunification de l'Allemagne. Donc le plus simple était vraiment de prendre la situation telle qu'elle était, même si vous avez parfaitement raison, c'était d'un certain côté grotesque.
Pour terminer, quelles leçons de l'histoire les nations justement ont-elles tirées de cet exemple quand elles signent un traité de paix ?
Eh bien que les réparations sont une très mauvaise idée, si on les prend comme une punition financière, qu'entre États, ce qui compte, c'est de régler les rapports économiques de façon efficace et juste autant que possible, mais certainement pas de considérer ça comme une amende de la circulation.
Ça n'existe plus.
Voilà.
Merci Georges-Henri Soutou d'avoir apporté le point de vue d'historien sur ce récent fait d'actualité. Refermons avec vous ce chapitre des réparations de la Première Guerre mondiale et renvoyons les auditeurs à la lecture de vos ouvrages, même les plus récents, hein, l'Europe de 1815 à nos jours, La guerre des 50 ans, L'or et le sang chez Fayard, publié en 1989. Et puis enfin, vous aviez consacré aussi un ouvrage complet à cette question, 1918-1925, Comment faire la paix, publié en 2001 chez Economica. Et ça, c'est une question toujours ouverte pour les pays d'aujourd'hui. Malheureusement, il y en a encore, il y a beaucoup de guerres.
D'où le point d'interrogation dans le titre que vous venez de citer.
Voilà. Merci Georges-Henri Soutou.
Merci à vous.